Studio Tamani, voici les informations en français.
8h à Bamako, la même heure à Kidal, au nord du Mali, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue dans cette matinale. Près de 9 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire cette année au Mali. L'annonce a été faite par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans un rapport publié il y a quelques jours. La fête de l'armée a été célébrée pour la première fois à Kidal depuis 12 ans. Ce 63e anniversaire de l'armée a été marqué par un défilé militaire et civil et des appels à la réconciliation et la paix. La 9e édition du festival Ogobanya s'ouvre ce lundi 22 janvier à Bamako. L'événement a pour thème la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mamadi Keïta sur la mise en onde, mesdames, messieurs, bonjour. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, annonce que près de 9 millions de personnes auront besoin d'assistance alimentaire en 2024, selon l'agence onusienne. Il s'agit du taux le plus élevé depuis une dizaine d'années. Les zones concernées sont les régions du nord et du centre du pays. Le point avec Aboubakrine Agmohamedine.
Dans ce rapport, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance estimaient que plus de 40% de la population malienne, soit 8,8 millions de personnes, auront besoin d'une aide humanitaire en 2024. Selon l'agence onusienne, cette crise humanitaire touchera particulièrement les enfants avec un taux élevé de plus de 4,7 millions parmi les plus vulnérables. Les documents indiquent que cette situation s'explique par plusieurs raisons, notamment la reprise des hostilités entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, les blocus sur certaines régions du nord et du centre du pays, les retraits de la MINUSMA et une intensification des attaques contre les civils. La diminution de la présence des organisations non gouvernementales dans certaines zones du pays est l'un des facteurs précurseurs de cette insécurité alimentaire, note l'organisation. Par ailleurs, l'UNICEF alerte également sur le manque d'accès des enfants à l'éducation avec la fermeture de plus de 1500 écoles. Une situation qui touche près de 460 000 enfants et 9 200 enseignants. Dans les rapports, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance ajoutent que les enfants continuent d'être exposés à des risques en matière de protection, notamment le recrutement dans le rang des groupes armés.
Le commissariat à la sécurité alimentaire précise de son côté que c'est un peu plus d'1 300 000 personnes qui seront en insécurité alimentaire pendant la période de soudure comprise entre juin et août 2024. Selon le coordinateur national du système d'alerte précoce, Moussa Goïta, des mesures sont déjà prises pour soutenir les personnes touchées par cette crise alimentaire. Il est au micro de Kwandjara.
Au Mali, il y a une zone qui est en phase d'urgence, la zone de Menaka, et 12 zones sont en zone crise. La situation d'urgence de crise est surtout liée à l'insécurité de façon globale et à empêcher certaines personnes d'aller au champ pour cultiver. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ce nombre, donc en termes de réponse, c'est la distribution alimentaire gratuite, le renforcement des moyens d'existence et souvent aussi des transferts monétaires, aussi des appuis nutritionnels aux enfants. Voici ce que l'État apporte aux populations, aux 1,3 million de personnes qui seront en insécurité alimentaire dans la période projetée, c'est-à-dire juin à août.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Je vous le disais dans le titre, le 63e anniversaire de l'armée malienne a été célébré à Kidal ce 20 janvier. Le cérémonial a été marqué par des discours des autorités, un défilé civil et militaire et la remise de grades. Et une célébration faite en présence du chef de l'exécutif régional, des forces vives et la population de la cité de l'Adrar des Iforas. Mamadou Samasekou.
Depuis 6h du matin, le lieu de la cérémonie a été pris d'assaut par les habitants de la ville. Toutes les organisations de la société civile étaient présentes. Les femmes, les jeunes et les leaders communautaires n'ont pas manqué de répondre à l'appel du gouverneur El Hadj Agamou. Après avoir procédé à la revue des troupes, le chef de l'exécutif régional a assisté aux différentes allocations et aussi aux défilés animés par les civils et les militaires. Le premier gouverneur de la région et actuel président de la commission régionale de réconciliation, Eglas Agafoni, a dans son intervention fait un rappel de l'histoire de la région en mettant l'accent sur le brassage culturel qui l'a marqué. Le commandant de la zone militaire militaire a lui salué le professionnalisme des forces armées maliennes qui ont permis de reprendre le contrôle de la région de Kidal. Notons que la fête de l'armée n'a pas été célébrée dans cette partie du pays depuis 12 ans.
Studio Tamani à Kidal, c'est sur la radio Tisdas. Ouverture cet après-midi à la place du cinquantenaire du festival Ogobaya. Cette 9e édition est placée sous le thème « La contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali ». La communauté Touareg est l'invitée d'honneur cette année. Événement culturel d'envergure nationale, le festival Ogobaya vise à promouvoir la paix et le vivre ensemble à travers la culture.
Les journaux de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont concédé le nul un but partout lors de leur deuxième sortie. C'était face aux Aigles de Carthage de la Tunisie samedi dernier à Korogo. Malgré ce résultat, les Maliens restent premiers du groupe avec 4 points, suivis de l'Afrique du Sud et la Namibie, 3 points chacune. La Tunisie est dernière avec 1 point à son compteur. Le sélectionneur Eric Sekou-Chel se dit confiant pour la suite. Selon lui, il y a encore de la place pour se qualifier en 8e de finale. Il est au micro de notre envoyé spécial Zamogon à Korogo.
On a fait 2 matchs, on a marqué 3 buts et on en a encaissé 1. Voilà, sur le premier match, on a été très bon dans l'intensité et la récupération. On a été un petit peu moins bon dans la maîtrise. Sur ce match, on a gardé l'intensité et rajouté un petit peu plus de maîtrise. Maintenant, sur ce troisième match, il faut qu'on soit capable de plus amener les ballons sur les attaquants, d'avoir un petit peu plus de profondeur et un petit peu plus de... on va dire, qui va nous apporter des occasions. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a une progression. Les joueurs sont un petit peu déçus, mais ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, on est concentré, on est bien où on est. Voilà, ça va très bien se passer.
Des supporters maliens étaient partagés entre déception et satisfaction après le match nul concédé face à la Tunisie. Pour certains supporters, il y a des choses à revoir dans le système de jeu. D'autres estiment que ce point du nul rapproche le pays d'une qualification pour les 8e de finale. Écoutons leur réaction au micro de Jiada Tamaïga.
Mais je pense qu'il y a des réajustements à faire. Niveau tactique, on se prend trop de cases à partir du côté droit. Je pense que le sélectionneur doit revoir ça. Mais j'avais parié un match nul contre la Tunisie. Au pire des cas, on est meilleur troisième. On est qualifié, c'est l'essentiel. Ça a été un match très très serré. C'est déjà très bien que le match s'est terminé sur un match nul. On ramènera la coupe à Bamako. Globalement, on a été très bien. On a dominé le match jusqu'à la fin.
C'était un match très difficile. Les Maliens n'ont pas très bien joué la défense. Et à l'attaque aussi, on n'était pas très agressif. Mais on espère pouvoir rattraper ça le match prochain.
Le Mali a été nul aujourd'hui.
Oh, nous sommes contents, c'est une belle prestation. Je dirais plutôt que le match a été dominé par le Mali. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu gagner ce match-là. Mais ce n'est que partie remise. On est vraiment derrière les Aigles.
Bah, il faut se reconcentrer déjà pour pouvoir attaquer le match prochain.
Les Aigles du Mali joueront leur 3e match mercredi prochain, 24 janvier, contre la Namibie. Pour le consultant sportif Mohamed Soumaré, le niveau du jeu des Aigles devrait s'améliorer au fur et à mesure que la compétition avance. Il estime toutefois que l'équipe malienne a au moins besoin d'un match nul pour se qualifier pour les 8e de finale. Il est au micro de Moussa Agmaha.
C'est vrai qu'on a vu une équipe du Mali nettement en progression par rapport au match précédent, mais... Il y a eu quelques failles, notamment au niveau du replacement défensif. C'est une compétition, l'équipe va en s'améliorant et puis les défauts seront corrigés au fur et à mesure. Au niveau de la tenue de balle, c'était bon, c'était correct, sauf qu'il manque un peu de rapidité dans le jeu. Avec 4 points, le Mali n'est pas totalement qualifié. Hein, et là, une défaite contre la Namibie... Là, peut remettre en cause les choses. Un match nul lors de la dernière journée suffirait au bonheur des Aigles. Mais bon, puisque nous sommes en compétition, là, il est important de gagner pour se mettre en confiance.
Place à présent à la rubrique CAN en une anecdote. Aujourd'hui, nous vous parlons de ce maillot assez atypique des Lions Indomptables du Cameroun à la CAN 2002 au Mali. Jiada Tamaïga.
Des maillots sans manches comme en basketball. C'était la tenue de l'équipe du Cameroun à la CAN 2002 au Mali. L'apparition des joueurs sur la pelouse a fait sourciller plus d'un. Si elle a pu jouer la CAN 2002 avec ses maillots, le Cameroun a reçu au moins des objections de la FIFA, avec une menace d'exclusion à la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon. Si le Cameroun s'est séparé de ses maillots, il a récidivé à la CAN 2004 en Tunisie. Durant cette édition, les Lions Indomptables étaient habillés en maillot de bain, c'est-à-dire le haut et la culotte étaient reliés entre eux.
Sachez que la deuxième journée de la phase de groupe a été bouclée hier. Le Maroc a fait match nul face à la RDC. Un but partout, même score entre la Zambie et la Tanzanie. Aujourd'hui, à 17h, débute la troisième et dernière journée de la phase de groupe. La Guinée équatoriale fera face à la Côte d'Ivoire. Au même moment, la Guinée-Bissau jouera contre le Nigeria à 20h. Le Cap-Vert affrontera l'Égypte et le Ghana sera aux prises avec le Mozambique. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadigo, mis en nom de Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les infos en Bamanankan.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le changement climatique est désormais l'une des principales menaces auxquelles sont confrontés les biens du patrimoine culturel. La situation inquiète les acteurs culturels, au même moment des environnementalistes préviennent que si les autorités et les partenaires de l'éducation n'agissent pas dans l'immédiat, les dégâts causés à ces sites peuvent devenir irréparables. Le magazine Parlons de l'environnement est réalisé et présenté par Maman Babakunta avec le concours de nos correspondants.
Au Mali, les sites classés patrimoine culturel sont de plus en plus impactés par des catastrophes liées au changement climatique. À Tombouctou, au nord du pays, l'architecture repose sur des matériaux de construction traditionnels. Et aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, ces matériaux sont en voie de disparition, nous dit El Bouhari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou.
Si on prend le cas de Tombouctou, c'est de la bonne terre qu'il faut aller chercher les bords du fleuve Niger, notamment la poudre de baobab, des sortes de lianes qu'il faut aller aussi chercher dans le désert. Et tout ça à cause de l'assèchement des mares, à cause aussi de l'ensablement du fleuve, sont en voie de disparition.
À Djenné également, des biens du patrimoine sont affectés par le changement climatique. Il s'agit notamment des sites archéologiques Djenné Djenou. Moussa Mourba Diakité, chef de la mission culturelle de Djenné.
Ce site est un site très menacé. Pendant l'hivernage, le site est inaccessible. L'eau monte jusqu'à un grand niveau et ça c'est un facteur inquiétant. Déjà, nos objets archéologiques sont lessivés, le site est lessivé et le site perd beaucoup d'éléments. Plusieurs fois, on a essayé de protéger les sites par des digues pour éviter ou bien pour freiner un peu l'élan de l'eau sur les sites archéologiques.
Comme Moussa Mourba Diakité, ces phénomènes inquiètent aussi des citoyens interrogés à Sikasso et à Gao. Pour eux, les autorités doivent prendre des mesures dans l'immédiat.
Si nous prenons le cas de la dune rose de Koima, aujourd'hui, elle
a tendance à disparaître. Hier, c'était à une certaine altitude, mais au fil du temps, ça se dégrade petit à petit.
Il y a beaucoup de bâtiments aussi qui sont dans cette même situation.
Il y a des sites dont on connaissait les lieux, mais aujourd'hui, avec l'avancée du désert dû au changement climatique, on n'arrive plus à les repérer.
Le pays Dogon est connu par sa richesse culturelle, mais aujourd'hui, le changement climatique affecte tous les aspects de la culture, du patrimoine culturel au patrimoine naturel, en allant jusqu'au moyen des substances liées à l'économie créative. Cependant, à Banyangara, malgré des dispositions prises par les responsables communaux, la situation persiste. C'est pourquoi le chargé de l'environnement de la mairie demande de conjuguer les efforts pour freiner cette situation.
Au pays Dogon, s'il y avait vraiment un vieillard qui décédait, on organisait les funérailles. Mais aujourd'hui, on ne fait plus le faire. Pourquoi ? L'effet du changement climatique a beaucoup joué à la destruction même vraiment de ces trucs.
Le changement climatique constitue alors un défi mondial majeur. Il est encore temps d'attaquer les problèmes et d'agir contre le dérèglement climatique. Le plus vite sera le mieux, préconisent des environnementalistes. Gaussou Berthe est expert en changement climatique.
Il est important aujourd'hui que les politiques au niveau national et international prennent des décisions. Il y a des efforts à faire par rapport à nos matériaux. Donc dans les temps anciens, certains matériaux résistaient bien aux aléas climatiques. Mais à la date d'aujourd'hui, avec les grands vents, c'est souvent difficile. Il faut arriver à adapter ces matériaux-là.
C'est la fin du magazine Parlons de l'environnement, réalisé et présenté par Mohamed Babakunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.